Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijaweli, votre podcast 100% afro qui vous donne la parole. Et oui, ici, nous abordons tous les sujets sans filtre afin de lever les tabous, briser les stéréotypes et avoir nos propres modèles de représentation. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui fâche. En fait, non, pas vraiment, mais ça dépend. Ça dépend pour qui et ça dépend aussi de la culture. Ça dépend de comment on décide de l'aborder et ça dépend aussi de comment on considère cela. Et oui, il s'agit d'argent. Ah, les finances, très important, mais en même temps, ça reste toujours tabou. En tout cas, tabou dans certaines cultures, surtout chez les francophones, c'est toujours un peu compliqué de parler d'argent. On ne peut pas demander combien tu gagnes, ton salaire. Puis, on ne sait pas trop vraiment sur quel pied danser quand il s'agit d'argent. Alors que chez les anglo-saxons, ils sont beaucoup plus libres, très open mind, en parler facilement, sans gêne. Et pourtant, savoir le gérer, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est même primordial. Surtout pour les sociétés africaines où on a encore on vit vraiment au jour le jour. Comment arriver à mieux gérer son budget? Et pourquoi est-ce même important de le faire? Cette éducation financière, pourquoi est-ce important même de l'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge? Mais c'est quoi l'éducation financière? Qu'est-ce que c'est concrètement? En quoi elle consiste? Selon l'OCDE, l'éducation financière consiste à donner des connaissances et la compréhension des concepts et des risques financiers, d'une part, et d'autre part, à donner des compétences et la confiance en soi pour prendre des décisions financières éclairées. Et enfin, c'est aussi pour améliorer le bien-être des individus et de la société pour le présent comme pour le futur et leur permettre de participer à la vie économique. Voilà. Donc, globalement, moi, je retiens que l'éducation financière, c'est avoir accès à des connaissances pour mieux comprendre mes finances, pour me permettre de faire des choix pertinents et avisés en matière financière et dans la gestion de mon argent à chaque étape de ma vie. Et je pense que c'est essentiel d'avoir toutes ces notions, du moins les notions de base, pour mieux gérer son budget, pour ne pas se retrouver endetté ou dans des situations qui finalement nous dépassent et où on serait amené à demander de l'argent ou à se retrouver même avec des prêts qu'on n'est même pas capable de rembourser ou même parfois laisser des dettes à nos enfants. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Ayodele. C'est un peu notre Amazon de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat féminin. Elle en a vraiment fait son domaine d'expertise. Elle accompagne des gens ainsi que des institutions gouvernementales à mettre en place des techniques et des méthodes pour mieux gérer leur budget, pour mieux diagnostiquer et mieux planifier leur budget, pour finalement quoi? Arriver à un certain équilibre budgétaire et même à un challenge zéro dépense sur certains mois, si je ne me trompe pas. Mais elle saura mieux vous expliquer que moi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et sans plus tarder, j'accueille Ayodele. Coucou Ayodele, comment vas-tu?
Coucou Mireille, je me porte bien. Je te remercie pour l'invitation et c'est un plaisir d'être sur IJ Awele.
Yes, moi aussi je suis trop contente. Donc ça me fait super plaisir aussi. Et on va parler aujourd'hui d'éducation financière et je sais que tu as pas mal, enfin tout ton background est quand même basé sur ça. Et donc j'ai hâte justement que tu nous apportes un peu ton expertise sur les différentes questions que je vais te poser. Ouais. Mais avant de commencer, est-ce possible de te présenter à mes auditeurs et auditrices, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Merci. Bonjour, chers toutes et chers tous. Je suis Ayodele Onyan. Je suis experte sur les questions d'inclusion financière. J'accompagne les entrepreneurs, les programmes et les gouvernements dans la mise en place d'instruments dédiés à l'entrepreneuriat en Afrique avec un focus sur les programmes spécifiques à l'éducation financière et à la gestion des finances. C'est un plaisir d'être là.
Top. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue tout le temps. Il y a deux questions que je vais te poser, mais c'est vraiment pour balayer toutes ces idées qu'on a par rapport à l'argent. Est-ce que déjà apprendre à gérer ses finances personnelles, est-ce forcément quelque chose qui est réservé aux riches?
Moi, je dirais non. Parce que je peux dire encore que le riche, il peut se permettre même de ne pas savoir gérer parce qu'il en a en abondance. Mais quand vous n'avez pas beaucoup, c'est là que vous devez vraiment faire encore beaucoup plus attention pour mieux gérer le peu que vous avez et pour dès là commencer à bâtir quelque chose de solide que vous pourrez transmettre aux générations à venir pour qu'elles puissent avoir la liberté ou non de ne pas bien gérer leur argent. Donc, quand vous n'en avez pas beaucoup, je pense que c'est là où vous devez faire deux fois plus attention. Et quand vous en avez en abondance, là, vous faites encore attention pour ne pas faire de mauvais placements et pour sécuriser votre patrimoine afin de le passer à la génération d'après vous.
Ok, bon, ça c'est fait, merci. Oui, je pense en effet tu as raison. Je posais cette question parce que, sachant que déjà on vit dans une société où, ben, en Afrique souvent c'est vraiment au jour le jour, donc on n'a pas forcément cette notion de futur en fait, de mieux placer, de combien mieux gérer, donc c'est pour ça. Et souvent les gens vont penser que ben, de toute façon moi j'en ai pas, donc je vois pas pourquoi je vais forcément épargner ou gérer. Parce que ce que j'ai, je peux juste dépenser ça
C'est une
aujourd'hui, et puis
erreur.
voilà. En effet. Alors, et nous sommes là pour ça. Et il y a aussi cette, je ne sais pas si c'est francophone, mais il y a toujours cette notion qui est très, parler d'argent, ça reste très tabou. Pourquoi est-ce, enfin, comment peut-être enlever le tabou qui entoure l'argent dès le plus jeune âge pour mieux justement éduquer et sensibiliser les enfants dessus, en fait? Donc, pourquoi chez nous c'est tabou de parler d'argent?
C'est vrai que en fonction des régions, en fonction de la culture, parler d'argent, ça peut être quelque chose qui met mal à l'aise, ça peut être quelque chose qui indispose ou en tout cas glace certaines personnes en fonction de leur région. On dit que c'est à vous de parler d'argent parce que voilà, on met assez de formes, on ne veut pas parler, on griffe des sujets qui fâchent, ce qui ne devrait pas être le cas. Et l'argent, je pense que vraiment dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qu'il faut déjà partager avec nos enfants, nos plus jeunes. On voit tout plein d'enfants qui grandissent en voulant tout tout de suite et qui sont capricieux. Et je pense que c'est surtout à cet âge-là qu'il faut commencer à éduquer les enfants sur la valeur des choses, des coûts. Parce que souvent, en tant que parent ou bien même tata, tonton, on veut faire plaisir à ces jeunes bambins-là et on leur offre des choses. Et à chaque fois, ils veulent toujours plus. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer à inclure un peu les petites notions pour qu'ils quand même comprennent que voilà, ça ne tombe pas du ciel et il faut le mériter. Et quand on vous l'offre, il faut en prendre soin parce qu'il faut débourser de l'argent pour l'acheter. Et pour débourser de l'argent, c'est que tonton, tata ou maman ou papa, ils travaillent de longues heures. Ils ne sont pas là pour aller gagner de l'argent. Donc, il faut pouvoir les responsabiliser et les sensibiliser sur ça pour qu'ils comprennent. Et là, dès le jeune âge, ils comprennent déjà qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Et donc, l'argent, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec intelligence parce que ça ne tombe pas
Ce
des
que tu
arbres.
viens de dire, en fait, ça me fait rebondir sur un point où je me posais la question que pour justement arriver à éduquer, à mieux sensibiliser les enfants, en tout cas dès le plus jeune âge, ou même des gens comme nous aujourd'hui, hein, c'est d'être conscient de faire justement expliquer aux gens de faire la différence entre les besoins et les désirs. Parce que je pense que quand on n'arrive pas à distinguer, ben, on peut très rapidement tomber dans cet effet de masse ou de société de consommation parce que le désir, c'est juste que je le veux, mais il n'y a pas vraiment un réel besoin derrière.
Oui, c'est vrai que on confond souvent
Oui.
le désir et le besoin. On veut quelque chose, on ne se pose pas la question si on le veut parce qu'on en a besoin ou on le veut parce qu'on a envie. Et c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'on se laisse guider souvent par nos pulsions. Et entre ce qui est basique, ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable ou ce qui est juste du ressort de ce qu'on a vu et qui nous plaît, il faut pouvoir s'éduquer face à ça. La pyramide de Maslow également nous aide à vraiment savoir de quoi, quelles sont les priorités dans la vie. Et on peut faire également la même chose sur nos finances. Et surtout les femmes, elles sont beaucoup plus tentées de dépenser de l'argent qu'elles n'avaient pas prévu parce qu'elles ont tout le temps beaucoup d'idées et il faut, on ne le dit pas souvent, mais la façon de dépenser de la femme est également reliée à son cycle, ce que les hommes n'ont pas. Donc, chaque 28 jours ou 31 jours ou 25 jours. pour certaines, on n'est pas réglé de la même façon. Et donc, en fonction de nos fenêtres, on dépend beaucoup de nos
Oui.
émotions et on pense que le fait de dépenser de l'argent, c'est un acte de raison, mais non, c'est un acte qui vient vraiment du cœur. Ça vient de nos émotions. Et donc, mieux on gère nos émotions, mieux on gère nos
Ok,
finances.
bah tu vois, ça c'est, enfin, c'est un point très important ce que tu viens de dire parce que effectivement, en fait, il y a plein de choses, on le réalise pas, mais qui sont vraiment reliées à notre cycle en fait, dans plein de domaines. Et plus je suis en train de lire dessus, plus je découvre que, ok, je pense que même le fait de mieux comprendre son cycle menstruel peut nous aider, nous, en tant que femmes, à gérer mieux les différents aspects de nos vies. Donc, tu vois, par rapport aux finances, j'avais pas pensé, mais je pense que c'est un point très important que tu viens de lever en fait. Donc, Ayodele, moi je veux savoir, moi je suis Mimi, pourquoi est-ce important d'apprendre à mieux gérer mon budget et mes dépenses? Quelles sont les raisons qui vont me pousser à le faire? C'est quoi la pertinence? Parce que c'est pas forcément tout le monde qui va trouver ça important en fait. Donc pourquoi c'est important de le faire?
Ce que moi je dis pour répondre à ça, c'est que je fais comme nos mamans africaines, je dis c'est pas du tout important. Ne gérez pas vos sous, faites comme vous voulez et demandez-vous comment les gens qui n'avaient pas de réserve ont pu se gérer durant la crise du Covid. Si avant la crise du Covid-19, on ne parlait pas d'éducation financière, je pense qu'on a eu un cas très clair où on a vu que du jour au lendemain, on peut perdre son boulot. On a vu que du jour au lendemain, son business qui marche bien peut ne plus marcher parce que ce n'est plus la priorité des gens et qu'il y a plus urgent et que les gens n'ont plus de réserve et que certaines personnes vont même se voir partir de leur maison. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, dans leur compte bancaire, avaient prévu que 3 mois. Et si elles sont 3 mois de loyer en réserve, par exemple, et si elles n'ont pas d'emploi fixe, c'est que les 3 mois passent et que le propriétaire les somme de partir. Et donc, pensons à ça et demandons-nous si c'est important de gérer ou de faire un effort sur la gestion de nos finances et on répondra de nous-mêmes. Si malgré toutes ces exemples, on trouve que non, ce n'est pas pertinent, alors rien ne nous fera changer d'avis. Mais si cette crise du Covid-19 nous a quand même alerté sur certaines choses, sur certaines réalités de la vie et que la vie du jour au lendemain peut basculer, alors on comprend qu'il est important de prévoir. Et prévoir, c'est anticiper. Anticiper, c'est préparer demain. Et préparer demain, c'est de commencer à faire des réserves aujourd'hui.
Et comment est-ce que je fais ces réserves? Et ces réserves-là sont supposées m'amener à, peut-être je me trompe, sont techniquement à une certaine forme de liberté ou de sécurité financière, n'est-ce pas?
Oui.
Et c'est quoi la différence? Déjà, comment je fais pour planifier en fait mes dépenses tous les mois? Enfin concrètement, que ce soit de manière réaliste. Quelles sont les astuces que je suis supposée mettre en place, justement, les conseils? Comment sensibiliser les gens ou leur faire comprendre que, ok, avoir une liberté ou une certaine sécurité financière te permet justement de pouvoir, voilà, avoir ça.
La première des choses déjà, c'est de faire l'état des lieux de sa situation. Parce que je suppose que nous sommes nombreux à suivre ce podcast et qu'il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes en recherche d'emploi, il y a des personnes qui travaillent et qui veulent faire le saut d'entrepreneuriat. On a tout plein de profils. Et donc, il serait bien que je commence déjà à faire un diagnostic. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Je travaille. Quels sont mes revenus? D'abord, si je ne peux pas déterminer mes revenus, ce qui est sûr, c'est que j'ai des charges. Quelles sont mes charges fixes? Est-ce que je vis chez mes parents? Est-ce que je vis en colocation? Est-ce que j'ai ma maison? Quelles sont mes charges fixes? Je détermine mes charges fixes. Je détermine, voilà, tout ce qui est lié à ces charges-là, électricité, eau, Internet, communication. Est-ce que l'argent rentre ou pas, il y a de l'argent qu'on dépense obligatoirement chaque mois. Donc, il faut partir de ces charges-là. Si vous êtes en Afrique, il faut encore faire plus attention parce qu'en Afrique, en tout cas dans certains pays, on n'a pas de système social. Et donc, si vous êtes malade, c'est que vous sortez l'argent de votre poche pour aller à l'hôpital. Si votre enfant est malade, vous sortez de l'argent de votre poche pour aller à l'hôpital. Et donc, votre santé, même votre bien-être n'est pas garanti. Et donc, pour ça, il faut toujours prévoir quelque chose à côté au cas où, parce que vous ne pouvez pas compter sur de la famille et vous retrouver à l'hôpital et commencer à appeler les gens. Parce que si ces gens-là également, ils faisaient comme vous et qu'ils ne planifiaient pas, je ne pense pas qu'ils aient des réserves pour vous aider. Donc, il faut penser à tout ça. Si vous avez fait un prêt, si vous êtes à l'extérieur, vous avez fait un prêt immobilier, je ne sais pas, vous pouvez acheter une voiture et que vous devez rembourser, il faut pouvoir anticiper tout ça dans vos charges. Et maintenant, l'idée, c'est de maintenant faire de l'autre côté le listing de nos revenus et de voir déjà est-ce que nos revenus couvrent nos charges. Si nos revenus ne couvrent pas nos charges, là, il y a un souci. Il faut maintenant trouver l'équilibre pour que ça couvre les charges. Et de là, maintenant, vous pouvez savoir où se situe le problème et comment
Ok.
réajuster.
Enfin, toi, dans tes différents ateliers, parce que je fais des ateliers, des conférences aussi. Je sais pas, quelqu'un te pose la question, mais enfin, moi, je gagne juste, moi, je gagne peu, et puis, ben, je vis au jour le jour. J'ai tant d'enfants, j'ai plein de ci, j'ai plein de ça, et que c'est pas possible pour moi de pouvoir établir un budget mensuel. Tu réponds quoi? En Afrique, hein?
Oui, d'abord fait le diagnostic et quand on fait le diagnostic maintenant, on voit maintenant comment il faut faire. Il faut déjà planifier, c'est indispensable. Quand on fait le diagnostic, on planifie. Loyer, je sais à quelle date je paie mon loyer. Donc, soit j'essaie de mettre l'argent dans la caisse loyer systématiquement. Je vais au plus urgent, donc je mets l'argent de côté. Et après, pour certaines choses, les fêtes, les anniversaires des enfants, même si ça ne couvre pas. Maintenant, je commence à chercher comment couvrir ces charges-là. Donc, planifier, suffit juste de lister et de mettre de l'argent en avance pour les charges que j'aurai à payer à la fin du mois. J'estime, pour trouver ma facture d'électricité, par exemple, ce que je propose de faire, c'est de prendre nos dernières factures sur les 6 derniers mois et de faire la somme et diviser par 6 pour trouver une moyenne. Et donc, chaque mois, j'essaye de mettre cet argent de côté. Et pour les personnes que j'accompagne vraiment de manière personnalisée, l'idée, c'est de toujours arriver à un mois où on a moins de charges que le mois dernier. Donc, si ma moyenne sur les 6 derniers mois, c'est par exemple 35 000 francs CFA pour la facture si je suis en Afrique, c'est que je dois pouvoir me donner un cap de ne pas dépasser ce montant-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que les structures d'électricité ou tout ça vont toujours réduire ma consommation pour toujours être en moins. Sinon, je vais continuer à les suivre avec tout qui va prendre cher alors que mon salaire n'augmente pas. Et donc, c'est un travail personnel qu'il faut faire à son endroit pour pouvoir gérer cette petite charge-là sur laquelle on peut avoir un minimum de contrôle. Et le reste, ce serait de trouver maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis salarié? Si je suis salarié, comment faire le diagnostic au bureau également pour préparer une demande d'augmentation à mon supérieur? Le deuxième cas, ce serait soit je suis entrepreneur, il s'agira maintenant de travailler mon produit, de travailler mes offres pour voir comment je peux réduire mes charges au niveau de mon travail pour pouvoir combler le gap avec entre ce que je gagne et mes charges. La troisième solution, c'est que si je ne suis pas les deux cas, de trouver comment je peux trouver mon talent et pouvoir soit travailler avec un entrepreneur, proposer des services en freelance pour en tout cas gagner de l'argent, ce qui est 2 fois plus facile aujourd'hui avec Internet. Il y a tout plein de petits métiers à faire pour gagner de l'argent et avoir des revenus à la fin du mois.
Je veux toucher, enfin, je pousse le bouchon, hein, mais t'inquiète pas, c'est normal, d'accord?
Vas-y. On est là pour ça.
D'accord. Enfin, parce que c'est pas forcément tout le monde qui comprend la notion d'épargne.
Oui.
Donc, comment justement les sensibiliser, les encourager à épargner? Et surtout, j'aimerais savoir si tu peux nous citer, nous donner quelques avantages en fait. Quels sont les avantages que l'on peut en tirer en épargnant?
OK. Au fait, l'épargne a plusieurs avantages parce que ça vous permet d'avoir de l'argent de côté. Maintenant, il ne faut pas confondre l'épargne et le fonds d'urgence, parce que c'est le fonds d'urgence, c'est en quelque sorte de l'épargne que vous constituez pour les urgences, pour ce qui peut arriver demain et tout. Et donc, ce que moi je recommande, c'est qu'il faut avoir plusieurs épargnes. Il ne faut pas avoir juste de l'épargne là et mettre de l'argent là et le mois prochain, s'il y a une fête, aller enlever l'argent dedans pour acheter voilà, les encarats et les pagnes, les chaussures pour la fête. Ce n'est pas l'idée d'avoir ça, de constituer son épargne, ce n'est pas pour faire ça. Et donc, quand vous constituez l'épargne, c'est que vous devez avoir un objectif. Quel est votre objectif? Où est-ce que vous allez? Ça a toujours lien avec le diagnostic initial. Vous devez savoir pourquoi vous épargnez. Si je suis en location et que je veux m'acheter un appartement, je dois pouvoir avoir une caisse pour mettre de l'argent de côté. Quand je dis caisse, n'imaginez pas un petit pot en terre cuite, c'est bien voilà, un compte ou quelque chose pour mettre de l'argent de côté. Et la caisse en terre cuite également, ça fonctionne pour les petites pièces à la maison. Donc, il faut pouvoir savoir qu'est-ce que je veux faire, quel est mon objectif de vie, est-ce que j'ai des enfants? Si j'ai des enfants, ils ont quel âge? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, soit je constitue de l'argent pour assurer l'éducation de mes enfants progressivement, parce qu'il faut anticiper. En Afrique, on n'a pas vraiment d'assurance vie, on n'a pas ces choses-là. Et donc, quand un malheur arrive à la famille, malheureusement, l'avenir des enfants est hypothéqué. Donc, il faut réfléchir à tout ça pour savoir qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes responsabilités. Peut-être que j'ai des parents qui suivent des traitements lourds et qu'il faut payer des médicaments par mois. Donc, il faut pouvoir intégrer tout ça et les intégrer dans vos charges. Et ensuite, vous constituez votre épargne pour anticiper ces différentes charges que vous avez. Et qu'est-ce que l'épargne permet de faire de façon simple? C'est que vous n'êtes pas étouffé. Vous n'essayez pas de garder la tête hors de l'eau à chaque fois parce que vous savez que voici ces charges fixes qui, qu'il pleuve ou qu'il neige, arriveront à la fin du mois. Et donc, on n'a pas à être surpris. Ça vous évite d'être surpris devant des choses quand même qui ne sont pas du ressort de la nature, mais qui sont des choses vraiment très simples. Et donc, ça vous épargne des stress inutiles à courir chaque 30 jours pour des charges que vous connaissez qui sont fixes déjà. Et ça vous permet d'anticiper. Quand vous anticipez, vous avez plus de recul pour faire autre chose. Et donc, c'est à ça que sert l'épargne. Ça sert à ne pas vivre vraiment au rythme de vos charges et anticiper. Et pourquoi pas mettre de façon automatique ces charges-là. Peut-être vous les mettez sur un compte et vous demandez un prélèvement automatique. Et donc, c'est géré au fur et à mesure. Et c'est une façon également de déléguer parce que surtout si vous le faites par votre banquier, de manière automatique, ça vous enlève certaines responsabilités des micro-tâches qu'il faudra faire. Et donc, c'est juste ça l'avantage. Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi j'épargne? Qu'est-ce que je
C'est
cherche
ça.
à faire? Voilà. Et c'est très, très important.
Ok. Enfin, je reste toujours dans la société africaine. On est vraiment au jour le jour. Je pense que même la plupart des gens, enfin, moi je vais juste prendre le cas des gens qui sont par exemple des chauffeurs ou des cuisiniers. C'est à chaque fois, ok, ils ont leur salaire et puis en fait, même pas 10 jours après, il n'y en a plus. Ils vont revenir vers vous pour demander, ou même la femme vient d'accoucher, ils vont demander, tu peux me donner de l'avance. C'est pour ça que je me dis, on n'a pas cette notion et donc du coup, même quand il y a un décès, quand tu as déjà un malheur qui te tombe dessus et que tu dois encore aller réclamer de l'argent, je trouve ça triste et dommage que les gens soient amenés à emprunter de l'argent pour pouvoir enterrer la personne alors qu'ils vivent déjà une situation difficile. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'inculquer cette notion d'argent, de gestion, d'éducation financière dès notre plus jeune âge en fait pour mieux justement prévenir. Alors que bon, les sociétés occidentales c'est encore différent. T'as l'assurance vie, t'as la sécurité sociale, tu peux avoir un conseiller qui peut te suivre, mais en Afrique je trouve qu'il y a on l'a pas cette chose-là et ça manque en fait.
Oui, c'est pour ça qu'il est vraiment important de planifier. Planifier, c'est juste organiser suivant un plan. Si vous êtes un couple, c'est que soit vous faites le choix de ne pas avoir d'enfant, soit vous faites le choix d'avoir un enfant. Donc, une grossesse ne devrait pas être une surprise à un moment donné. Ça veut dire qu'en amont, il faut commencer à planifier et à se dire si un enfant vient, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, prendre les dispositions. Si vous n'en voulez pas, une fois encore, vous planifiez pour que ça ne vienne pas. Mais on ne reste pas là et les choses évidentes nous tombent dessus. C'est ce que je déplore un peu parce que on est quand même des jeunes ou encore plus, ou des étudiants. Donc, il y a des choses quand même qu'on devrait vraiment faire avec moins d'émotion et faire avec un peu plus de bon sens, même si, ne serait-ce que pour notre propre dignité. Parce que si vous êtes dans une relation avec un homme, à un moment, il faut savoir que l'amour, c'est vrai, ça ne dure pas toute la vie. Et qu'il y aura des hauts et des bas. Et si, en plus de tout ça, aujourd'hui où tout coûte cher, vous êtes une charge pour votre compagnon, à un moment, votre amour va en souffrir parce que c'est lié à l'estime de vous-même, à la dignité, à votre amour personnel. Et donc, il ne faudrait pas que les histoires d'argent voilà, détruisent des histoires d'amour. Et quand on sait que les ruptures souvent dans les couples, un sur cinq cas de séparation sont dus à des histoires d'argent. Donc, il ne faut pas être gêné quand vous vous mettez avec une personne, même dans une relation, savoir combien je gagne, combien tel gagne. Parfois, on fait des cachotteries autour, mais quand même, il faut toujours couvrir ses arrières pour ne pas quand même être une charge pour l'autre. Donc, il faut pouvoir en parler, surtout dans les couples aujourd'hui, c'est très, très, très important. Il ne faut pas se dire que voilà, après, il comprendra ou bien il saura. Non, surtout dans notre société africaine, en Afrique de l'Ouest.
Il est important d'apprendre à dire ce qu'on attend de l'autre dès le début d'une collaboration. Ça évite les malcompréhensions et ça favorise une meilleure collaboration dans tous les sens.
Et on attend qu'il devine. Donc, il faut vraiment mettre les sujets sur la table et en parler. Voilà, tu as telle famille, voilà ta charge, tu as des petits frères que tu envoies à l'école. Comment tu fais pour nous? Comment t'assures l'avenir de nos enfants? Il faut pouvoir en parler. Parce que plus le temps va passer, plus ça va s'accumuler et on va commencer à bouder, à se dire qu'on a fait des signes, qu'il n'a pas compris, qu'il aurait dû comprendre et se créer des problèmes vraiment inutiles. Donc, il faut parler les choses, surtout de l'argent dès le début.
C'est drôle ce que tu... Enfin, c'est drôle. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit c'est drôle. Parce que, toi, tu dis, il faut parler dans les couples dès le début. Mais sauf que j'ai remarqué que... Je ne sais pas, c'est parce que c'est à cause du patriarcat, j'en sais rien, que l'homme doit s'occuper de la famille. Donc, du coup, il y a des femmes même qui vont gagner leur salaire, mais en fait, qui vont même pas chercher à... comment dire? À contribuer aux charges, on va mettre toutes les charges vont peser sur l'homme dans le foyer parce qu'ils vont dire que bah, c'est le devoir, voilà, c'est en quelque sorte c'est le devoir de l'homme.
Une fois encore, ça dépend de nos sociétés, de nos cultures. Je ne compare pas, je ne juge pas, mais on va se retrouver au Niger par rapport au Bénin où il y a le poids de la religion également qui n'est pas négligeable, où la femme, son rôle, c'est d'être jolie pour son mari, en tout cas une partie, je ne généralise pas une fois encore, de faire des enfants, de s'occuper de la maison. Et elle a même des aides de maison qui l'aident, même quand il n'y a pas encore d'enfants. Alors que vous venez, par exemple, au Bénin, où le monsieur, peut-être, il est du Koufo ou du Mono, où là-bas, c'est la polygamie, et chaque femme doit subvenir aux besoins de ses enfants. Le mari, parfois, ne fait rien. Donc, en fonction des cultures, il faut savoir d'où on vient et ne pas trop rêver également. Dans d'autres régions, si on prend par exemple l'exemple de l'Inde, où dans une partie quand même, c'est la femme qui paye la dot pour l'homme. Donc, il faut vraiment ne pas se berner, savoir dans quoi on rentre, quelles sont les réalités de chez moi. Parce que je ne vais pas savoir que chez moi, c'est la femme qui se décarcasse et fait tout et commencer à comparer mon couple à l'autre où le monsieur y fait tout. Donc, il faut déjà être transparent avec soi-même, ne pas se voiler la face et surtout ne pas rentrer dans quelque chose et se dire, voilà, avec le temps, ça va changer. Maintenant, voilà, si la femme également gagne de l'argent et que le monsieur, il dit, non, t'inquiète, je m'occupe de tout, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais il faut qu'elle sache que le jour où on ne le souhaite pas, il y a un pépin où le monsieur perd son boulot, les affaires ne marchent pas, il faut qu'elle puisse contribuer. Et donc, il faut toujours en parler. Au début, c'est vrai, aujourd'hui, ça se passe bien, mais demain, si ça se passe moins bien, comment on fait?
Exactement. Et enfin, quelle différence tu fais entre liberté financière et sécurité financière?
Entre liberté financière et sécurité financière. Moi, je ne suis pas la définition du dictionnaire, mais ce que je me dis, c'est que sécurité
Non, mais de manière concrètement pour nous, quoi, enfin,
concrètement.
pour la vie de tous les jours,
Voilà,
voilà.
la liberté financière, c'est que voilà, il y a une fête le week-end prochain. Je n'ai pas quoi mettre, je peux me permettre d'acheter la tenue qu'ils amènent. Si je suis dans la logique de la sécurité financière, c'est qu'il y a une fête le week-end prochain, ils ont choisi une tenue qui t'en veut rose. OK. Est-ce que j'ai un autre tissu qui ressemble un peu à cette tenue-là? Je vais plutôt chercher dans mon placard et prendre la tenue qui ressemble à leur tenue, même si des gens vont me regarder. Donc, il faut savoir dans quel camp on se situe et ce que notre poche nous permet de faire.
Oui,
Voilà.
mais tu sais, non, mais là, t'es drôle, mais tu sais que dès qu'il y a les fêtes, ou dès qu'il y a enfin, il faut toujours les tissus, les chaussures, les cheveux. En fait, à chaque fois, c'est comme il faut toujours quelque chose de nouveau, en
Exactement.
fait.
Exactement. Est-ce que je peux me permettre, ma santé financière le permet? Si je suis assez libre financièrement, OK. Mais sinon, si quand même j'essaye de tout gérer, c'est que voilà, je dépense avec beaucoup d'intelligence et moins
Ok.
d'émotion.
Comment justement de façon, parce que moi je me dis en fait à la fin de tout ça, c'est de faire les choses, mais c'est pas, en fait, c'est pas des grandes actions qu'il faut mettre en place. Je pense que ça commence par des petites choses et de faire ça de manière très réaliste. Et je sais que justement il y a le psychologue, un psychologue américain, enfin Edwin Locke, qui disait justement qu'il faut se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignable et réaliste, et enfin réaliste et défini temporellement. Et donc je pense que il appelle ça la méthode SMART. Et je pense que si les gens arrivent en tout cas à se fixer ces cinq objectifs, je pense finalement ils vont voir ça de manière moins complexe, parce que parfois aussi c'est la peur en fait de ne pas savoir comment faire, ou c'est nouveau, ou même la peur aussi de manquer en fait, en se disant mais si je mets de côté c'est que je vais manquer de quelque chose, ou ce mois-ci je n'aurai pas ça. Donc comment rassurer en fait?
Une fois encore, il faut pouvoir ne pas s'éloigner de sa situation actuelle. Les objectifs SMART, il faut les définir de manière très simple et basique, comme ce que j'ai dit. Par exemple, moi, par exemple, je regarde pas la télé, donc j'ai pas de Canal Plus, je ne paye pas ces frais là à la fin du mois. Voilà, ça c'est moi. Et donc, si vous regardez Canal Plus, par exemple, et que vous payez, je ne sais même pas c'est combien l'abonnement, je ne sais pas si c'est 20 000 ou 25 000, est-ce que vous avez besoin de toutes ces chaînes-là que vous regardez à 25 000? Sinon, peut-être qu'il y a un autre forfait qui coûte 10 000 que vous pouvez avoir et épargner ces 15 000, les mettre de côté. Et donc, un objectif SMART sera de prendre des petites choses comme ça, du concret. Parce que parfois, quand on parle aux gens d'objectifs SMART, mesurable, atteignable, réaliste, c'est comme si on parle un gros français, ils ne voient pas. Et on a également un
C'est ça.
souci, on n'aime pas s'asseoir et faire le point. On fuit chaque fois et on pense que, voilà, je ne sais pas quelle angoisse on a, mais on n'aime pas voir la réalité de notre situation en face. Donc, à un moment, il faut vraiment qu'on se mette devant le miroir et qu'on fasse le point. Parce que si on n'a pas fait le point, vous voyez des femmes qui continuent à s'endetter alors qu'elles n'ont aucun plan derrière pour couvrir les autres dettes, mais elles continuent à le faire et elles s'enlisent. Vous voyez des hommes également, pour impressionner, acheter des chaussures chères qui ne les amènent nulle part alors qu'ils n'ont aucun plan derrière pour couvrir. Et donc, à un moment, il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on se regarde dans la glace et qu'on fasse le point et définir des choses vraiment très, très simples comme ça du quotidien. Pour essayer de couper des charges un peu pas indispensables quelque part pour équilibrer un peu dans la balance. Donc, il s'agira déjà de commencer par ces petits exercices-là.
Ok. Enfin, je sais que toi, je pense que ta maman a joué un rôle très important dans tout ce background de ton éducation financière. Et bon, je sais pas forcément ce qu'elle faisait, mais moi, du coup, c'est quand je vois toutes ces mamans qui travaillent au marché, qui vendent des pagnes. Enfin, là, je vais prendre l'exemple des Nana Benz. Comment ces dames-là, elles font?
Alors, comment ces dames-là font? Il faut dire que très tôt en Afrique, on apprend à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, pour réduire les risques, on préfère investir un peu dans divers secteurs d'activité.
Et parfois, le commerce, c'est quelque chose qu'on fait en voyant nos aînés faire. Et donc, si vous avez une maman commerçante, elle ne va pas vous dire, voilà, quand quelqu'un vient taper, il faut sortir pour lui vendre. Donc, si on prend l'exemple des femmes commerçantes, si je prends l'exemple du Bénin que je connais encore mieux, vous allez remarquer que pour acheter un étalage aujourd'hui au marché, ce ne sera pas aussi simple que ça, parce que tout est déjà occupé. Donc, vous vous rendez compte que c'est soit la grand-mère de la personne qui vendait là, et donc quand elle décède, sa fille récupère ou son fils. Donc, ça se transmet de génération en génération. Pareil pour le capital de commerce. Vous allez voir que les grandes familles aujourd'hui de commerçants, c'est que voilà, c'est l'arrière-grand-mère qui avait fait fortune et avait bâti ça. Et on transmet vraiment de génération en génération. Soit c'est par des coopératives, toujours des groupements de tontines ou. Les Nigérians arrivent bien à réussir ça, ce qu'on ne fait pas aussi bien qu'au Bénin. Par exemple, tous ceux qui vont à Dubaï faire des achats, vous allez voir qu'ils vont partir, qu'ils vont regrouper de l'argent et envoyer une ou deux personnes. Par contre, dans nous, notre système francophone, on sera 10, on va prendre 10 billets d'avion et partir individuellement, alors que les autres vont Oui, ils vont regrouper les trucs et partir à nez et ils auront une grande marge, ils pourront vendre moins cher et toujours trouver leur capital parce qu'ils ont réduit les charges bien en amont. Et donc, voilà autant de techniques que vous voyez nos mamans, nos grands-parents ont utilisé pour bâtir ce patrimoine aujourd'hui qui passe de main en main, alors qu'elles n'ont pas eu toute notre théorie, voilà, tout le développement de l'entrepreneuriat qu'est aujourd'hui. Et en plus, moi, je dis bien que l'entrepreneuriat féminin, en tout cas, la version qu'on nous sert aujourd'hui en Afrique, on n'a pas eu besoin de ça. Parce que quand vous voyez toutes les grandes tatas, en tout cas, tout le monde en Afrique, même les fonctionnaires, elles ont toujours un petit business à côté. Elles vendent soit des bijoux à leurs collègues, des sacs, chaussures. En tout cas, elles ont toujours un petit truc qu'elles vendent, même si c'est du toffee. Elles ont toujours quelque chose qu'elles vendent, même quand elles sont en train de travailler.
Oui, parce que je posais la question, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a l'accès, enfin, tout ce qui est numérique permet justement d'avoir plein de théories ou plein d'idées, ou enfin voilà, des livres. Et donc, parfois, on peut se retrouver un peu perdu dans tout ça et ne pas savoir par où commencer. Et du coup, ça m'amène à te poser cette question. Si tu avais trois tips à donner à ceux qui nous écoutent pour mieux commencer à gérer leur budget afin de maintenir un équilibre.
Afin de maintenir un
Oui,
équilibre.
enfin, oui, en tout cas, afin de mieux gérer leur budget de
Oui,
manière générale.
oui. Trois techniques qui fonctionnent pour moi, c'est le diagnostic et le listing. Et moi, j'applique avec les personnes que j'accompagne ce que je pratique. Donc, je sais quand il y a un problème où toucher. Ce serait déjà le diagnostic et le listing parce que ça vous permet d'avoir la liste de vos charges fixes. Ensuite, ce serait l'exercice que j'appelle le challenge zéro dépense. Et donc, ce challenge-là, c'est un exercice qu'on fait pour toujours se retrouver chaque mois à dépenser moins qu'on a dépensé le mois précédent. Et donc, c'est traquer vraiment chaque centime qui sort. Et le troisième truc, ce serait vraiment de voir comment générer plus d'argent, comment faire rentrer beaucoup plus d'argent, pas de petites choses. Ça peut être de l'échange de services, ça peut être de la mutualisation de ressources pour pouvoir dégager des marges. Et par ça, vous avez une santé financière saine parce que vous suivez tout de près et vous ne vous le laissez pas aller à des achats vraiment non
Ouais, surtout pour
planifiés.
les femmes.
Exactement. On dit surtout pour les femmes, mais les hommes également,
Non,
il y a
les
une
hommes
blague
aussi sont concernés. Ah, oui.
qui
En fait, je pensais les femmes à notre
dit.
cycle, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais
Oui.
surtout pour les femmes.
Surtout pour les femmes. Il y a une blague qui dit que les vendredis soirs, les hommes, beaucoup font des retraits au guichet automatique. Et le lundi matin, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont à la banque pour faire des dépôts. Donc, on ne vous laisse pas, on vous laisse deviner où l'argent passe.
N'est-ce pas?
Oui.
Je crois qu'on a tous compris.
Voilà, donc. Voilà, un peu.
Oui,
Responsabilisons-nous.
il le faut, il le faut, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer vraiment très tôt et pas attendre en fait au dernier moment pour pouvoir, ou attendre qu'il y a comme un événement ou quelque chose qui nous tombe dessus et finalement on réalise que oui, mais mince quoi, j'aurais dû si j'avais su des choses. Et surtout, on vit dans une société où le marketing joue beaucoup sur nous, sur notre esprit, qui va nous pousser à consommer davantage, mais alors que parfois, ben non,
Exactement.
c'est juste, comme tu as dit tout à l'heure, des pulsions et non pas un réel besoin derrière l'achat ou ce que, enfin, ce que nous comptons faire. Et si tu avais un dernier mot pour moi ou pour nous, enfin, tous ceux qui nous écoutent?
Merci, ce serait déjà merci de nous avoir écoutés jusque-là.
Merci.
Et ce serait de dire qu'il n'est pas trop tard pour bien faire et que dès que nous prenons la décision de mieux faire, on fait toujours. Et donc, réécoutez autant qu'il faut ce podcast et je suis sûre que vous allez tirer une ou deux choses. On ne finit jamais d'apprendre et si vous avez des techniques également, vous pourrez les partager avec moi.
Merci,
Voilà.
Ayodele. Et maintenant, moi, je vais te demander si les gens qui nous écoutent ont. De toute façon, je mettrai tes informations dans la description de l'épisode, mais est-ce que tu accompagnes les gens facilement en ligne ou partout dans le monde, c'est possible?
Oui, j'accompagne tous ceux qui le souhaitent. J'ai trois programmes par an Et donc, je suis joignable sur les réseaux sociaux, tous ceux qui seront intéressés. Nos programmes sont à partir de 150 euros. Et donc, tous ceux qui seront intéressés pourront me contacter sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube. C'est le même identifiant partout, Ayodele Onye.
Ok, d'accord. Là, on arrive à la fin et je te dis merci beaucoup.
Voilà.
Merci pour ton temps. Merci pour tes tips et de nous avoir sensibilisés à la notion d'éducation financière. Et je pense que on va éviter de moins de courir vers Visco, Woodin ou je ne sais pas trop. À chaque fois que nos pulsions nous parlent.
Oui, exactement. Exactement. Merci en tout cas pour l'invitation. Et un dernier conseil pour la route, avant d'aller faire vos courses, assurez-vous d'avoir mangé. Parce que quand on sort le ventre creux, surtout quand on va faire des achats, notre cerveau nous envoie plein d'autres signaux, comme quand on aurait besoin d'autres choses urgentes. Et une fois encore, quand vous allez faire vos courses, assurez-vous d'avoir une liste, de faire une liste de chez vous, ce qui vous oblige à rester sur cette liste-là et ne pas rester au supermarché et dire, tiens, j'ai oublié ça, j'aurais besoin de ça. Non, on n'en a pas besoin. Et surtout quand on a faim, on pense et on voit tout en urgent et on est vraiment plus vulnérable à toutes ces stratégies marketing
Bon,
qui
je
sont
pense
mises
que
en
je
place
suis
pour qu'on
victime de ça,
consomme.
je pense parfois. Non, je me dénonce.
Voilà, donc essaie de bien manger avant de partir. Là, tu es lucide, tu es calme, tu n'as pas d'envie bizarre soudaine, tu es objective.
Exactement. En tout cas, ben, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Ayodele.
Merci beaucoup et bon vent à IJ Awele.
Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà la fin de cet épisode. Un grand merci à Ayodele pour son temps. Merci à elle pour ses tips et j'espère que sincèrement vous allez repartir avec quelques astuces, quelques conseils qui vont pouvoir vous aider. En tout cas, nous aider pour mieux apprendre à gérer nos finances, notre budget. Soyons réalistes. Commençons par des petites actions simples mais concrètes qui vont pouvoir nous aider. Essayez de prendre ça comme un jeu. Ou plutôt, non, je dirais un challenge. Un challenge que nous pouvons faire peut-être sur 3 mois ou 6 mois pour voir justement si cela fait vraiment une différence ou pas dans nos habitudes, dans nos habitudes de consommation, dans notre budget. Et si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, le regard d'un professionnel pour vous aider, Ayodele est là. Elle se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider à mieux gérer tout ça. Et elle aime ça. Elle parle de ça avec passion, avec détermination. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Et si tu as aimé cet épisode, alors tu sais quoi faire? N'hésite pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les différentes plateformes d'écoute pour me soutenir et m'encourager. Et on se retrouve sur Instagram pour continuer la discussion sur l'éducation financière. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.